Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans l'émission Radio Foot International qui ne vous parle pas que de football malheureusement en ce moment, mais qui essaye quand même. Et nous allons commencer par le terrain avec le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Après trois éliminations frustrantes, les Parisiens ont décroché brillamment leur qualification hier soir au terme d'un match très abouti alors que leur... adversaires étaient étouffés et bien moins vaillants qu'au match à Dortmund. Y a-t-il eu une genèse de cette victoire? Nous essaierons de décoder tout cela. Neymar, le joueur le plus cher de l'histoire, buteur à l'aller et au retour, a-t-il regagné sa place dans le cœur des supporters? Thomas Tuchel a sûrement gagné de la crédibilité. Les champions d'Europe sortis en huitième de finale au terme d'un match imprévisible où les Reds ont finalement été battus sur leur pelouse par l'Atlético Madrid, fidèle à lui-même, infranchissable ou presque, puis cruellement à l'attaque. Mais ces quatre premières qualifications en quart de finale serviront-elles à quelque chose? À l'heure où des compétitions sportives en général et footballistiques en particulier sont chaque jour annulées, reportées, suspendues. Trois des quatre matchs de la prochaine semaine en Ligue des Champions devraient être reportés au nom du coronavirus. Et nous ferons le point. Et vous nous aiderez en cela, chers invités, comme Ambre Godillon, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Tout va bien, merci. Pour l'instant, j'ai pas de masque, j'ai un casque, moi. Tout va bien.
Merci, Ambre, d'être là aujourd'hui avec nous, vous qui êtes aux premières loges au PSG. Et il y a à vos côtés Philippe Doucet. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Madame Annie.
Tout va bien, Monsieur Philippe?
Bah oui, je suis pas malade.
Ça va? Bon, écoutez, pour l'instant, espérons que dans ce studio, tout aille bien. Nabil, ça va aussi?
Ça
le
va,
moral, bah,
écoutez,
ça va
un peu, bah, une atmosphère un peu irréelle, ouais. Je ne vous le cache pas.
C'est très étrange partout, effectivement. Et ça commence à rentrer même dans notre studio. Bonjour Christophe, ça va depuis hier soir?
Parfait.
Elle parle de qui quand elle dit que ça rentre?
On a un peu, tout petit peu dormi. Mais
hein, vous étiez ouais. Ici, là.
Encore sous le coup des émotions, c'est dur de s'endormir après les soirées pareilles.
N'est-ce pas? On a du mal à trouver le sommeil. Allez, avec David Finzel et Laurent Salerno, Radio Foot, c'est parti.
Supporter, c'est le meilleur au monde. On a vraiment le meilleur supporter au monde. Je suis très fier de vous.
Ils ont bravé la peur du virus, enfin du coronavirus, car une banderole accrochée par certains supporters en tribune hier disait aux joueurs « Notre seul virus, c'est le PSG ». Et des milliers de supporters, justement, entre 3 et 6 000, ont chanté. Là aussi, hein, il y a des différences entre ce que comptent les supporters et la police. Mais bon, ils ont chanté et encouragé leur équipe. Ils ont même tiré quelques feux d'artifice au début et à la fin. Et les joueurs les ont récompensés, les joueurs qui disent et qui ont montré qu'ils les avaient entendus, les ont même vus sur le chemin du stade, les encourager. Alors les joueurs les ont récompensés en gagnant, en se qualifiant et en venant ensuite fêter avec eux la victoire, même jusqu'à descendre dans la foule comme Levin Kurzawa qui a passé le cordon de sécurité pour commémorer avec la foule. Et c'est ce qui vaut de très belles photos dans la presse aujourd'hui et aussi sur les réseaux sociaux. Vous les avez sans doute vues, ces belles photos. Le meilleur public du monde, c'est ce que disait tout à l'heure le président Nasser en guise de remerciement. C'est une belle fidélité, peut-être qu'on n'imaginait pas, Ambre Godillon, avant le match. On savait qu'il y aurait des manifestations de supporters, mais on le verra après, même dans toute l'Europe, on en a parlé de cela.
Bah c'est très bien, ça met un coup de projecteur sur les tribunes de la plus belle des manières. Après, le public parisien, bon, il ne m'a pas forcément surpris. Hein. Il a l'habitude, avant les grandes rencontres, de faire des cortèges, de faire les choses en grand, d'accueillir, de pousser. Là, la différence, c'est vraiment le huis clos. Et le huis clos, finalement, a fait éclore, si je peux me permettre, encore plus le public, en tout cas, aux yeux du monde et de l'Europe du football. Parce que finalement, en les privant de leurs joueurs et en privant les joueurs de leur public, ils ont consacré les retrouvailles et la communion de la plus belle des manières. Ça a vraiment été un vrai moment de fête. Ça peut paraître disproportionné, mais c'est parce qu'on a privé deux amoureux l'un de l'autre. Et quand ils se sont retrouvés sous le signe de la victoire,
beau,
c'était magnifique.
Oh là là, magnifique. Philippe est sous le charme.
Ah oui, là, la Saint-Valentin, le 17 mars, c'est magnifique. Le 12 mars, c'est magnifique.
Le 11, le 11.
11, oui,
Philippe.
Bon.
Enfin, c'est
bon.
Tous les jours pour le Paris Saint-Germain en ce moment.
Philippe, vous avez été surpris, vous, par ces supporters du Paris Saint-Germain qui sont parfois un peu aussi débordants, parfois aussi pas forcément
aucun
au
incident
rendez-vous.
À signaler, hein, d'ailleurs. Il faut
exactement, exactement. Des fois, on trouvait que le PSG, en tout cas non, les tribunes, étaient un peu mortes ou ne répondaient pas au bon moment. Il y a un changement quand même.
Non, mais là, on est sur autre chose. On est sur un match à huis clos, quelque chose de tout à fait inhabituel, inattendu. Donc du coup, moi, par hasard, j'ai croisé le cortège Porte d'Auteuil hier.
Par hasard ?
Oui. Bah oui, parce que j'étais en voiture et voilà, je suis passé Porte d'Auteuil et j'ai croisé le cortège. J'étais bloqué par le cortège, mais c'était instructif et marrant de voir ça. Et puis il y avait plein de médias autour qui étaient tous. Un peu surpris parce que c'est, même si Ambre le rappelle, il y a souvent des cortèges de ce genre-là, mais d'habitude, on s'en fiche un petit peu. La manière dont ils vont au Parc des Princes, excusez-moi, on s'en fiche un peu.
Oui, c'est leur problème,
c'est leur organisation. Alors que là, tout d'un coup, on se dit, ah ben là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont venir, vont pas venir? La veille à Valence, il y avait exactement la même chose, sauf que Valence, ayant pris 8 buts sur le match aller, match retour, il n'y a pas eu la même fête après le match. Mais je pense que.
Il y avait moins de monde aussi.
Ah non, devant le stade. Ah non, vous connaissez pas. Devant Mestalla, c'est un des meilleurs spectacles d'Europe. Oui. Devant Mestalla à chaque match.
Il y avait des écrans
exceptionnels.
Alors que c'est vrai qu'on peut saluer au moins le public parisien qui est venu en sachant qu'il n'aurait pas d'écran géant, qu'il ne verrait pas le match. Pas finalement la plus pure définition du supporterisme, c'est simplement supporter, c'est-à-dire même pas voir le match.
D'autant que certains essayaient de capter ça sur leur téléphone, mais avec le nombre de gens qui étaient sur la 4G au même moment dans ce coin de rue,
il y avait le speaker.
Ils avaient du mal à.
Le speaker dans le stade, c'est vrai, pour le coup, disait les actions vraiment chaudes.
Non,
ils commentaient pas, mais vraiment s'il y avait une action chaude ou évidemment les buts.
En pensant que
les buts étaient célébrés en dehors du stade, pour le coup, j'y étais. À
vous
moment
y étiez
où le speaker,
dans le stade.
En dehors du stade.
Et vous avez écouté le match à la radio alors.
Oui, c'est ça.
Bah comme quoi, hein. N'est-ce pas Christophe?
Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était un beau moment en fait, sans doute qu'on revivra plus jamais parce que les conditions étaient tout à fait exceptionnelles.
Même si c'était un beau moment, c'est pas ça le foot quoi.
Bah, oui, foot, non, mais je veux dire dans la spontanéité et effectivement dans la volonté de fêter ça ensemble, de communier après une soirée quand même assez incroyable. Il y a eu vu d'en bas, enfin moi j'étais pas au parc, hein, mais j'ai vu d'en bas filmé par les smartphones ces joueurs au bord du vide. Bon après quand on voit l'envers du décor, on voit qu'il y a des agents de sécurité qui sont derrière, qui sont en train de ceinturer.
Oui, parce qu'ils étaient sur les.
Ah, ils étaient au bord du.
Ils
balcon,
étaient au bord
quoi.
Des escaliers finalement sous le Parc des Princes. Oui. Hein,
voilà, donc on retenait.
Ils saluaient les supporters.
On retenait Di Maria par le genou.
La tribune de taille finalement.
Ouais. Voilà, donc c'était.
Enfin, le béton fait 3-4 mètres de large.
En crampon, je m'y risquerais pas quand
non,
même.
Non, c'est vrai.
Nabil.
Bah moi, je veux pas casser l'ambiance, mais j'ai un sentiment mitigé quand même par rapport à cette situation. Effectivement, on peut pas interdire le bonheur, heureusement. Et je trouve que c'est vrai que c'était des belles images de communion. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais
je suis obligé de rappeler quand même ce qui se passe. Et alors, vous allez me dire que c'était autorisé par la préfecture de police de Paris, mais qu'ils pouvaient pas faire autrement parce qu'à mon avis, ils seraient quand même venus ou une partie. Alors, vaut
oui,
mieux,
parce que par exemple, les écrans avaient été demandés, été interdits. Hein.
Vaut mieux organiser, maîtriser les choses que qu'il y ait une forme d'anarchie, même si elle est toute relative. Donc moi, j'ai un sentiment partagé en cette période de vigilance sanitaire où il y a des choses qui sont plus importantes que le football. Je ne veux absolument pas ici jouer le pisse-froid. C'est pas du tout contre le Paris Saint-Germain ni quoi que ce soit, mais je trouve quand même qu'il y a une forme d'égoïsme aussi parce qu'il y a quand même actuellement quand même des consignes assez précises.
Pas de réunion de plus de 1000
assez
personnes.
Assez précises là-dessus. Et voilà, donc c'est un sentiment pour ma part qui est mitigé. Mais les images, elles resteront évidemment.
Oui, il y a eu des remarques, par exemple l'ancien Premier ministre italien, Matteo Renzi, qui a dit justement c'est étonnant de voir ce genre d'images. Et eux, les Italiens, qui sont quand même dans une atmosphère de confinement qui les perturbe beaucoup.
André, je ne sais pas si on va en parler, mais André Villas-Boas a fait une sortie aussi là-dessus. Bon, voilà, ça prête quand même au débat.
Bon, en tout cas, cette fête des supporters, eh bien, elle est saluée par nos confrères à l'étranger. Kicker, le journal allemand, parle d'une pyropartie. Der Spiegel, un impressionnant feu d'artifice. Bild salue l'ambiance autour du stade. Et en Italie, la Gazzetta a parlé de la communion. Cette communion entre les supporters et les joueurs. Une presse qui salue, bien sûr, la qualification des Parisiens, qui pour certains ont haussé leur niveau, ces joueurs. et qui pour d'autres ont vaincu la malédiction. Justement, les buts hier soir, on va les entendre à huis clos aussi.
Sur le maillot, compact. Thierry Bardi Maria avec le but.
Le but
tout seul à la retombée du ballon. C'est Neymar, me semble-t-il. Ouais, tout seul à la retombée du ballon dans les 6 mètres. Neymar qui ouvre le score et qui explose. Le centre venu de la droite.
Bernat
et le buteur.
C'est la fin du match côté parisien.
Et le banc qui explose. Thomas Tuchel, le point rageur. Il a qualifié le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Je pense que dans 3 semaines, si le PSG met 4-0 à Dortmund et passe, certaines personnes qui ont eu des jugements radicaux et excessifs se retrouvent dans une situation de dire oui, bah en fin de compte, c'est vrai qu'il y a 3 semaines, et je pense que c'est important de garder dans notre métier cette culture de la distance. Ouais.
Ça, c'était le petit tacle de Habib Bey. Il avait, à la suite de la prestation du Paris Saint-Germain à Dortmund, mis un carton à un peu ceux qui critiquaient trop le Paris Saint-Germain pour sa prestation à Dortmund. Est-ce que quelqu'un se sent visé ici?
Pas du tout. Enfin, je sais pas, j'ai pas entendu beaucoup de gens annoncer que le Paris Saint-Germain serait éliminé après le match aller. Que le Paris Saint-Germain était décevant au match aller, qu'il ait à la fois perdu et même pu perdre, ils auraient pu perdre par 2 buts d'écart ce jour-là, et ça aurait eu beaucoup de conséquences sur le match d'hier, qui était un match très serré hier. Hein. On va pas raconter non plus la messe, on va pas raconter que le Paris Saint-Germain a survolé. Enfin, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vu en entier, je surveillais beaucoup Liverpool, où là il y avait du public, donc bon, voilà, c'était un choix personnel, je dois dire, très, très personnel. Mais non, je ne sens pas du tout visé, mais. C'est la magie des réseaux sociaux, la magie entre guillemets, hein, des réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est sans arrêt argument contre argument. Ah ben vous avez dit ça, mais non.
Ah oui, ça, non, Philippe, non, vous le ça, savez
non.
très bien. Oui,
non, on n'a pas dit ça, désolé. Mais...
je vous vois souvent répondre sur les réseaux sociaux justement aux attaques.
Non, mais le problème, c'est pas, c'est-à-dire que le jugement par Paris Saint-Germain, il est toujours altéré parce que c'est pas un club comme les autres. Et il est alimenté aussi par ce qui se passe non pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Après, quand vous avez des faits qui sont ce qu'ils font, ils sont pas inventés par les gens, quand vous avez quand même le joueur le plus important du club qui, à la sortie du match, Neymar, vous explique que la préparation du match, elle était pas bonne. On l'a pas inventé, je veux dire. Demain, si Messi fait la même avec le FC Barcelone, ça sera commenté de la même manière.
Oui,
si c'est Cristiano Ronaldo, ça sera aussi exactement de la même manière. Après, avec du recul, on a surtout le sentiment, moi, que Dortmund a raté la qualification, surtout à l'aller, parce que vu le match qu'ils ont produit et vu le résultat et l'écart, finalement, c'est là où ils ont raté le coche. Le Paris Saint-Germain est sorti de ce match-là en restant en vie. Ensuite, collectivement, c'est pas la meilleure équipe d'Europe pour moi. J'allais dire, ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions, mais enfin, ça c'est un autre débat. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont des talents qui peuvent effectivement renverser n'importe quelle équipe.
Et justement, hier, le Paris Saint-Germain s'est donc imposé sur le score de 2-0. Paris a-t-il fait le match parfait? Le capitaine du soir, le Brésilien Marquinhos, en est convaincu.
Ouais, presque parfait, non, c'est parfait. Toute l'ambiance qu'il y a eu avant le match, on a eu de bon mental sur le terrain, on a resté costaud, on a marqué les 2 buts qu'il fallait, on n'a pas incassé le but, c'était franchement très bien, il faut qu'on garde ça pour la suite. Tout le temps qu'on a été contre le mur, on a montré qu'on avait des valeurs, on avait des personnalités pour surmonter ça. Et je pense qu'quand même on s'est qualifié, on va profiter bien ça. Et il faut garder tout cet esprit, toute cette qualité, cette personnalité pour la suite.
Ont-ils fait le match parfait ou presque parfait? Alors, effectivement, ils sont qualifiés, ils ont gagné, oui. Christophe, mais oui. Parlons du fond du match.
Bah, l'issue est parfaite. Après, ce qui me paraît évident, c'est que on a vu une équipe, et c'est souvent le reproche qui a été fait au PSG ces derniers mois, même ces dernières années. Et là, ils ont réussi à exister en tant qu'équipe. Il y a eu des mots de l'entraîneur de Thomas Tuchel sur cette cohésion qui, semble-t-il, a existé avant même le coup d'envoi. Voilà.
Ben justement, on va l'entendre, Thomas Tuchel, expliquer comment cette équipe a souffert ensemble.
Je dois dire, on a souffri ensemble, toujours souffri ensemble, et c'était nécessaire. On a fermé des espaces, on a travaillé pour un autre. C'était pas volontaire, mais nous sommes dangereux aussi pour faire des transitions offensives. Et c'était un effort énorme, sans spectateurs, c'était plus difficile, et pour ça, c'était super, super bien.
La souffrance, la solidarité, l'union, c'est ça qui a été la clé de la victoire pour vous, Ambre Godillon ?
Bah oui, je pense que tout a été dit. C'est clair que le Paris Saint-Germain, jusque-là, on lui faisait surtout le reproche. Et les qualités individuelles, ils les ont. Ouais. Les hommes, ils les ont. Y a pas de souci pour ça. Ce qui manquait, c'était la cohésion. C'était aussi, évidemment, le fait de se sacrifier dans le dépassement de fonction. Et oui.
On l'avait déjà vu contre voilà. le Real Madrid.
Oui, on l'avait vu, mais ils n'avaient pas souffert. Notamment, par exemple, contre Manchester, bah là, ils avaient souffert et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, le gros problème du Paris Saint-Germain, c'est quand ils commençaient à douter et c'était de réussir à gérer ces temps faibles. Et là, pour le coup, le Paris Saint-Germain, on peut pas dire hein, sur ce match-là, ils ont eu un vrai temps faible. Ça a quand même duré quasiment une mi-temps, mais ils ont réussi à ne pas concéder d'occasions franches. Ils ont réussi à eux essayer d'exploiter les espaces dès qu'ils en avaient, à défendre tous ensemble, y compris les attaquants. Ça, c'était quand même un point important au Paris Saint-Germain.
Cavani,
c'était
Neymar.
Voilà. Et donc tout le monde a été impliqué, c'est vrai. Résister ensemble, défendre en Ligue des Champions, c'est essentiel. Il n'y a aucune équipe, même tous ceux qui ont gagné, qui ont surperformé, qui pendant 90 minutes n'ont pas eu de temps faible. Mais bien la clé sûr. Des grandes équipes, c'est de réussir à résister ensemble à ces temps faibles. Et force est de constater que le Paris Saint-Germain, enfin, a réussi à le faire. Et dans ce sens-là, ce match peut être un match fondateur pour l'équipe, je pense.
Nabil Djelit.
Ce n'est pas un match référence au niveau du football, mais c'est peut-être un match référence au niveau de l'état d'esprit. D'ailleurs, on a vu à la fin du match comment ils l'ont célébré. On a l'impression qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, mais en fait, c'était surtout un sentiment de soulagement. Plus de soulagement, de verrou peut-être. Est-ce qu'il y aura un avant, un après Dortmund, on verra pour le Paris Saint-Germain. Mais celui qui a donné le signal quand même, c'est le Brésilien Neymar. Dès le début, la presse est haut. Il a été, il a envoyé le signal à ses coéquipiers. Ah oui, après, c'est vrai, ils n'ont pas été
souverains.
On les
avait vus quand même, on se souvient de ce match aller à Manchester United l'an dernier, où il y avait eu cette cohésion d'équipe, il y avait eu cette solidarité.
Non mais Annie, ils sortent quand même de... Ça fait 3 années qu'ils sont éliminés en 8e de finale, avec chaque fois un match retour cataclysmique. À Barcelone, on peut me raconter l'arbitrage ou autre, mais le match était cataclysmique. Le match retour contre le Real était cataclysmique au Parc. Et l'an dernier il n'était pas cataclysmique, mais il était contre une équipe de néant. Et ils avaient réussi à perdre, on se demande encore aujourd'hui comment ils ont réussi à perdre. Bon, donc c'était 3 cataclysmes. Revenir de ça. Il y en a quand même pas mal qui l'ont vécu. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont vécu.
Dans le groupe.
Et le club visiblement en était encore meurtri. Ils étaient encore sur cette image que les 8e de finale c'est inatteignable. Alors que,
Avec Zlatan Ibrahimovic, ils sont.
Mais bien sûr.
On l'oublie, mais ils sont arrivés quand même déjà en quart de finale.
Mais depuis, c'est vrai qu'il y avait une chape de plomb, une espèce de fantôme comme ça au-dessus de l'équipe.
Oui, parce que le PSG soit en quart de finale, en rien un événement. Ils étaient favoris.
L'Atalanta est en quart de finale.
Ils étaient favoris avant. Ils sont parmi le 5e ou 6e budget européen. Ça n'a rien d'extraordinaire qu'ils soient en quart de finale.
On le dit pas assez.
Mais ils n'y arrivaient plus. Ouais. Et dans des circonstances qui ont marqué les esprits. Les 3 matchs retour des 8e de finale étaient 3 matchs qu'une équipe de ce niveau-là ne doit jamais se permettre. Jamais on peut être aussi faible sur ces 3 matchs-là. C'est pas possible.
On le dit pas assez, mais il y a peu d'équipes européennes qui peuvent perdre 3 ou 4 joueurs titulaires et les remplacer qualitativement pratiquement par des joueurs aussi forts. En fait, et ça rappelle quand même la force de l'effectif du Paris Saint-Germain, parce qu'hier, t'as pas Thiago Silva. Alors bon, on peut toujours discuter du cas de Thiago Silva, mais t'as pas Verratti, t'as pas Meunier, t'as pas Mbappé, j'ai peut-être dû en oublier. Je veux dire, combien d'équipes aujourd'hui en Europe, l'Atalanta, ça leur arrive, ils passent même pas les poules. Combien d'équipes aujourd'hui en Europe sont capables d'être désossées à ce point-là et quand même présenter une équipe qui fait peur? Il y en a pas beaucoup. Mm-hmm.
Christophe.
Oui, et puis il y avait aussi le fait que l'arrivée de Neymar était censée faire passer le cap aussi à ce PSG qui n'arrivait pas auparavant et on restait sur l'échec de la saison dernière. Donc il y avait plein de fantômes et de menaces réelles. Hein, sans dévaloriser ce PSG-là, il suffisait de faire la liste des événements contraires pour être inquiet, entre guillemets.
Il a failli en mettre un, en contraire. C'est comme ça qu'on l'a identifié au début, donc la chape de plomb, c'est encore un peu alourdi. C'est aussi pour ça que je pense que la célébration a été aussi débridée, parce que le soulagement est à la hauteur des déceptions qui avaient été accumulées depuis des années.
Alors, on a joué un 11 mars, qui est une date très chère à Neymar, mais Neymar était là, il était sur leur pelouse, et ce joueur, on s'en souvient, honni par les supporters en début de saison, après l'été bizarre qu'il a fait vivre à son club, il les a finalement forcés, les supporters, à l'acclamer. Il a marqué à l'aller, il a marqué au retour, il a fini par pleurer, consolé par Mbappé. Neymar a-t-il hier soir donné enfin raison au Paris Saint-Germain qu'il a payé si cher?
C'est un immense joueur, Neymar.
Immense joueur, mais fragile.
Alors, fragile
non, physiquement. Non, mais les deux dernières années où il s'est vraiment blessé.
Physiquement, il a eu effectivement ces deux problèmes qui sont des accidents, il faut le rappeler. C'est pas, il se claque pas toutes les semaines, Neymar. Il a eu deux accidents, une récidive du reste, en deux années. Donc, un événement assez rare quand même dans sa carrière, où il a, dans l'ensemble, été assez solide. Après, oui, sur le plan mental, il a eu parfois des crises de larmes, parfois il s'emballe, parfois des coups de sang, parfois des cartons rouges, des machins. Bon, il aura toujours, parce que ça fait partie un petit peu de sa personnalité. Mais moi, je retiens une chose quand même, c'est ça. C'est que Neymar soit enfin considéré à sa juste valeur par tout le monde, enfin. Je veux dire, ça ne devrait pas être très compliqué, a priori,
non, mais apparemment, c'était compliqué. Il jouait contre. Nabil, on se souvient que Neymar est recruté par le Paris Saint-Germain pour avoir été l'artisan de la fameuse remontada. Est-ce qu'on a vu ce Neymar-là hier?
Bon, pas à ce point-là, parce que moi, je pense qu'il n'est pas aussi fort
non,
qu'à l'époque du FC Barcelone.
Non, pas au top de la forme physique, mais morale.
Non, mais on a surtout vu un garçon impliqué, concerné. Je disais que c'était aussi... De toute façon, quand il est sur le terrain, il triche pas, lui. S'il faut défendre, il défend. Je l'ai vu très vite monter, tacler, aller harceler ses adversaires. Après, vous dire que c'est le Neymar de la remontada, moi, je crois pas. Je crois qu'on
non,
en est quand même loin.
Je pensais du rôle moral.
Il a été clairement le leader. Et de toute façon, quand vous êtes footballeur et que vous avez un joueur comme Neymar autour de vous, quand le ballon vous brûle les pieds, vous lui envoyez le ballon. Je veux dire, c'est évident. Ses coéquipiers le cherchent. Il décroche. C'est le playmaker. C'est le cœur du jeu du côté du Paris Saint-Germain. Et bon, moi, toute proportion gardée, c'est marrant parce que quand il marque de la tête, il me fait penser à Zidane en 98 parce qu'en fait, c'est le meilleur joueur, mais c'est pas des joueurs qui marquent de la tête sur corner. Donc, il marque dans un registre. En fait, je me mets à la place de Favre, l'entraîneur de Dortmund. Toute la semaine, vous préparez plein de plans et tout pour contrecarrer le Paris Saint-Germain, votre adversaire, la vitesse de Mbappé en profondeur, couper l'alimentation si c'est Paredes ou j'en sais d'autres. Et finalement, vous prenez un but de la tête par Neymar. Donc, c'est-à-dire que c'est sur corner en plus.
D'ailleurs, ils avaient mis Hakimi dessus. Voilà, il dormait
sur le coup.
Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas identifié le danger. Ouais.
En tout cas, Neymar, hier, il a clairement répondu présent. Et ce qui est plutôt rassurant, même si bon, l'actualité ne l'est pas, c'est que il peut encore faire beaucoup mieux avec le Paris Saint-Germain parce que c'est un quart de son talent qu'on a vu hier.
Il n'est pas à 100%, mais c'est un tel joueur que forcément, dans ces moments-là, c'est un leader essentiel.
Il a failli nous faire un joli coup aussi avec son épaule en début de match. Ça recommence.
Il a fini strappé d'ailleurs. On a pu voir les images dans le vestiaire.
Sur une simulation, c'est pas le moment le plus intelligent du match. Ouais. Il fait une simulation et il se blesse à l'épaule dessus.
Il a été malin parce qu'il a aussi, rappelons-le, on l'a pas dit, mais il a quand même fait expulser Emre Can à un moment quand même... décisif.
Avant la fin du match.
Voilà, donc il a été impliqué sur le but, sur les deux buts, et également en impactant Dortmund par l'expulsion.
Et en effet, leader d'énergie après sur le terrain. Et c'est autre chose, et c'est un registre dans lequel Neymar, on l'attaquait souvent, c'était les efforts. Et force est de constater qu'il donne l'exemple aussi là-dessus. Il fait beaucoup de replis, il s'implique, il va dans le cœur du jeu, il va chercher les ballons. Il va au contact, même si des fois il y a des simulations. C'est aussi son jeu.
Ouais.
Mais il a moins peur. Ça devient un vrai leader.
Christophe, on a aussi noté ce matin, quand on préparait l'émission, la défense, le duo Marquinhos-Kimpembe.
Gros match. Et
c'est les mieux notés, hein, par exemple, pendant nos confrères de l'équipe aujourd'hui, Kimpembe à 8 et Marquinhos aussi.
Ouais, ils ont tenu vraiment derrière. Ils ont protégé Navas qui a passé une soirée relativement confortable, tellement ça a fonctionné bien devant lui. Et en préparant l'émission, c'est vrai qu'on se demandait si finalement le fait de ne pas avoir retenu Thiago Silva était pas le bon choix, parce que imaginez Thiago Silva dans cette charnière-là à la place de l'un ou l'autre, à court de forme, n'aurait pas forcément rendu service, servi la cause du Paris Saint-Germain.
Encore qu'au match aller, il avait quand même été assez présent.
C'est toujours difficile de juger les choix d'un entraîneur, parce qu'on n'est pas à l'intérieur du groupe, on voit pas les entraînements, on n'a pas tous les éléments. Mais il était en tout cas patent. Une fois qu'on voit le match, on peut en parler. Et notamment, moi, j'ai pas trop vu le match retour, mais j'ai vu très bien le match aller. Au match aller, on peut reprocher à Tourelle d'avoir fait tous ses choix en fonction sans doute davantage des noms des joueurs ou de la personnalité des joueurs, l'importance des joueurs, que de leur forme physique. Donc il y avait facile sur le terrain 3-4 joueurs qui étaient très justes physiquement, et du coup on avait bien vu que le Paris Saint-Germain avait vu un vrai problème physique au match aller, et en plus ça avait généré des choix tactiques peut-être discutables. Au match retour, il est en tout cas très très clair qu'il n'a pas mis Mbappé malade. Il n'a pas mis Thiago Silva qui rentrait de blessure. Il a fait donc des choix. Alors peut-être qu'il a mis un Bernat un peu juste. C'est peut-être le seul choix où on peut dire qu'il a été dans le côté
il a
je
risqué,
préfère.
Disons.
Oui, un petit risque. Ouais. Mais pour le reste, il a mis les hommes en forme. Et ça me semble être quand même de bon aloi. Et je pense que tout entraîneur, normalement, devrait faire ces choix-là à chaque fois. Il faut croire qu'au match aller, il n'était pas en position de les faire pour diverses raisons internes. Lui-même n'a pas osé, ou c'est des choix internes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au match retour, il l'a fait.
Après, ça dépend de la lecture qu'on en a. Si on prend la lecture simplement conditions physiques, oui, on peut se dire, il n'avait pas fait les bons choix. Mais si on prend la lecture niveau, le niveau intrinsèque des joueurs, Neymar, le niveau intrinsèque de Neymar, il n'y a pas de joueur meilleur dans le 11 de départ. Donc, lui,
il fallait pas l'enlever.
Oui, mais
même
il s'est dit, Neymar, je le mets. Et Thiago Silva, le niveau intrinsèque de Thiago Silva par rapport à Abdou Diallo, à Presnel Kimpembe, à Marquinhos, peu importe, en défense centrale, même un Thiago Silva qui n'est pas à 100% de sa forme, est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain, en tout cas sur les 6 premiers mois. Et je pense que Thomas Tuchel, il est parti de ce constat-là. À tous les postes, il a voulu mettre les meilleurs joueurs. Après, entre-temps, entre le match aller et le match retour, il y a des joueurs qui ont fait leur preuve, qui ont montré que, sorti du banc de touche, ils étaient excellents. Presnel Kimpembe, il était dans une forme étincelante. Pablo Sarabia, il est ultra décisif, notamment les matchs de coupe. Donc après, là, ça se justifiait. Le niveau intrinsèque comptait peut-être finalement moins que ce qu'ils allaient pouvoir apporter dans l'équipe. Et là, ça s'est vérifié. Je pense qu'il y a aussi une logique de groupe.
En plus, il y avait une qualification. Nabil, le joueur qu'on a remarqué aussi hier soir, et on dira enfin et tant mieux, c'est Idrissa Gueye au milieu de terrain.
Oui, il a eu un creux un peu physique, mais bon, c'est collectif. Alors je rappelle également, mais on le dit pas assez, mais c'est quand même aussi comme Salah ou Mané, des joueurs qui ont joué la CAN l'été dernier et qui n'ont pas eu forcément une préparation adéquate. Il y a le poids du transfert. Il a été soulagé par Paredes, l'Argentin, qui a franchement rendu une copie très intéressante entre Grinta, mais aussi qualité de transmission, verticalité. Il a bien ventilé le jeu. Mais juste, si je peux me permettre, pour revenir très vite sur le cas là, de la charnière centrale, moi, je pense que Marquinhos bonifie Kimpembe, ce qui n'est pas le cas de Thiago Silva. Et j'ai le sentiment, je peux me tromper, au top, la meilleure charnière possible pour le Paris Saint-Germain, c'est Thiago Silva-Marquinhos. Hier, Kimpembe, il fait un match absolument monstrueux. Il y a absolument rien à dire. Mais Kimpembe, t'attends toujours le truc irrationnel, une certaine suffisance parfois dans le jeu, la cagade. C'est juste mon sentiment. Maintenant, c'est sûr que ce match-là va aussi compter maintenant pour savoir est-ce que Thiago Silva s'est terminé à ce niveau-là pour le Paris Saint-Germain.
Oui, on sait qu'il y a la renégociation
ou
de son
pas.
Contrat.
Après,
c'est
bon, voilà. Mais ils ont été bons, et vous avez raison, Annie, de le rappeler, la charnière centrale, parce qu'ils ont été aussi bien protégés par des joueurs comme Gueye, par des joueurs comme Sarabia. Et là, c'est vraiment une équipe qui a travaillé ensemble.
Philippe, sur le Idrissa Gueye, on l'avait vu très bon dès qu'il était arrivé au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'après, il y a eu un creux, alors pour X raisons. Mais là, hier, on avait besoin de lui. À l'aller, c'était moins probant. Et là, il était là.
Oui, il était passé un petit peu à travers au match aller, effectivement. Il n'avait pas été bon.
Mais c'était effectivement une configuration totalement différente. On l'avait largement dit.
Il était déjà mieux, là, sur les matchs, les tout derniers matchs. Lyon et, je ne me rappelle plus tous les matchs.
Il n'y a pas eu Strasbourg, puisque.
Non, il n'y a pas eu Strasbourg.
Lyon et Bordeaux.
Et Bordeaux, voilà. Je l'avais trouvé déjà un petit peu mieux physiquement, un petit peu plus frais, et du coup, osant un petit peu plus, parce qu'il était, je le trouvais un petit peu en dedans, alors que sa qualité, évidemment, c'est un joueur de rythme, c'est un joueur qui va dans toutes les zones, qui va presser, qui revient, qui bouge, qui participe aux actions, etc. Et je le trouvais un petit peu en dedans.
Là on l'a vu partout.
Là, apparemment, effectivement, il a refait un bon match et c'est. De toute façon, il n'y a pas de mystère dans le football, on connaît ça par cœur. Il y a des très, très, très grands joueurs, Neymar, Mbappé, etc., qui eux. Quel que soit le contexte, peuvent vous sortir de n'importe quelle situation, peuvent être à l'aise même dans des matchs où l'équipe est pitoyable autour, ils peuvent arriver à sortir de leur chapeau une action, etc. Et puis autour, il y a un certain nombre de bons joueurs, de très bons joueurs. Et le Paris Saint-Germain en a des paquets de vraiment très bons joueurs internationaux, de très bons niveaux. Mais c'est pas eux qui vont tirer l'équipe. C'est-à-dire que si l'équipe est bien, ils vont être bien. Si l'équipe est pas bien, ils vont se disloquer comme plein de joueurs, de très bons joueurs. Mais dans toutes les équipes, c'est comme ça. Il y a des grands leaders, il y a des très grands joueurs. Et puis, il y a les autres qui subissent un petit peu. L'équipe est bonne, Gueye va être bon. L'équipe est pas bonne, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Gueye? Voilà,
L'équipe lui met 8 aujourd'hui à Idrissa Gueye.
Super, c'est une belle récompense pour lui.
En face, les jaunes et noirs. Alors, on a eu l'impression quand même qu'il n'était qu'une pâle copie de l'équipe affrontée à Dortmund. On a eu l'impression, on en parlait effectivement ce matin, qu'il y avait presque eu un inversement. C'est-à-dire, tout ce que Dortmund avait fait de bien au match aller, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a fait bien, c'est-à-dire l'agressivité, marquer des buts, être toujours
le choix
très
tactique surtout
de... aussi. Est-ce que finalement, alors justement, on se souvient d'avoir beaucoup vu Haaland, Sancho, Witzel, Emre Can et tout ça au match aller. Là, on les a à peine vus. Évidemment, le Paris Saint-Germain les attendait très largement. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des erreurs tactiques de Lucien Favre?
Je pense qu'ils ont joué trop bas et que ils ont fait un choix tactique extrêmement frileux en pensant qu'ils allaient pouvoir contenir le Paris Saint-Germain. Ils ont joué en 5-4-1. Et même quand ils ont commencé un petit peu à produire du jeu, moi, je les ai trouvés toujours assez bas sur le terrain. Après, effectivement, il y a aussi des performances individuelles. Il y a eu des faillites hier de 2-3 joueurs. Hakimi, le Marocain, pour moi, à droite, n'a pas du tout été au rendez-vous. Rarement lancé, peu fait de différence sur son côté, peu de centres de qualité. Emre Can a fait le boulot, mais en revanche Witzel, je ne sais pas si vous avez remarqué, autant il a été bon à l'aller, autant là effectivement si Paredes et Gueye ont gagné la guerre un petit peu au milieu, c'est que lui aussi a été moins bien. D'ailleurs, il a été à un moment sorti. Je pense que c'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise quand elle a le ballon que quand elle n'a pas le ballon. Donc hier, elle a fait le choix d'attendre. Et en fait, je pense qu'elle s'exprime davantage quand elle est en 3-4-3 un peu plus haut. Après, il y avait quand même de la qualité. Haaland, faut pas l'enterrer, mais un joueur comme Sancho, c'est quand même sacrément fort. Bon, je pense que le Paris Saint-Germain a sorti une vraie bonne équipe, malgré une performance en dents de scie hier. Et cette équipe de Dortmund, elle est capable de regarder dans les yeux n'importe quelle grosse équipe européenne.
Ambre, le PSG s'attendait peut-être à une équipe plus forte dans la veine de ce qu'ils avaient vu au match aller.
Oui, non, mais après, Dortmund, sur une mi-temps, ont quand même produit un sacré match et ont quand même poussé le Paris Saint-Germain dans ses retranchements, la deuxième mi-temps. Mmh, ouais, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, j'ai plus l'impression que le Borussia Dortmund avait été surpris du niveau collectif du Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain surpris de celui du Borussia Dortmund. C'est-à-dire que le Borussia Dortmund, ils ont continué à appliquer ce qu'ils avaient fait au match aller. La différence, elle s'est jouée du côté, pour moi, des rouges et bleus, quoi. C'est que eux, ils ont vraiment mis beaucoup plus d'âpreté dans les duels. Ils sont allés vraiment plus au pressing. Ils étaient toujours en surnombre. On les a vus vraiment étouffer les joueurs du Borussia. Ça, ils jouaient, c'est vrai, beaucoup plus haut, les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais je crois qu'on a fait le tour de ce match, Annie. On a tout dit.
Je crois.
J'espère que c'est pas le dernier. Moi.
Je peux vous en parler pendant des heures, mais j'ai l'impression qu'on a tout dit.
On a très peu parlé d'Haaland, hein. On aurait remarqué.
Parce qu'il s'est très peu montré.
Parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Voilà. On a peut-être trop parlé
d'Haaland. On reviendra dans l'avenir, croyez-moi.
Oui, sans doute. Allez, on passe à l'autre match, celui qui a notamment plus intéressé Philippe Doucet.
Quel match?
C'est super Gini.
Oh là là,
Nadou ! Oh là là !
Attention à ce renvoi d'Adrian. Oh, attention ! Le maillon fort, enfin s'appelle Oblak, le maillon faible. Ce soir aussi, sans doute, enfin s'appelle Adrian.
Llorente, attention, Llorente sur son pied droit.
Oh là 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 ! Le show Llorente, il vient d'éteindre la lumière.
Retour vers le futur. Non, non, le cholisme, on n'est pas mort. Diego Simeone tient à le rappeler à tout le monde. Énorme prestation d'un Atlético de Madrid qui était mené 2-0 au début de la prolongation, qui a renversé le cours des choses.
Ce match de dingue avec les commentaires de nos confrères de RMC, car les champions en titre sont donc éliminés, sortis devant leur public d'Anfield, médusés par le scénario qui a crucifié leur équipe en fin de partie. Liverpool battu. Une défaite que lui inflige l'Atlético sur son terrain 3-2. Quel scénario donc cruel, surtout que cette équipe, Philippe, elle a mené 2-0 au début des prolongations. Malheureusement, il restait encore beaucoup de temps de jeu, une vingtaine de minutes. Et là, je crois que l'entraîneur argentin des Colchoneros a inventé un Simeone time en Angleterre. 3 buts inscrits en 13 minutes par Llorente, donc, et Morata. Écoutons d'ailleurs le commentaire légèrement ironique et amer de Jürgen Klopp.
Je suis comblé par la performance de nos joueurs. C'est très difficile de jouer contre l'Atlético de Madrid. Franchement, je ne comprends pas qu'une équipe de cette qualité puisse pratiquer un football aussi défensif. Le vainqueur a toujours raison, mais quand je vois des joueurs comme Koke, Saúl Ñíguez, Llorente, ils pourraient être plus ambitieux. Mais ils restent regroupés et mis sur les contre-attaques. Bien sûr, on l'accepte, félicitations à eux, mais c'est difficile à avaler. Ces deux dernières saisons, nous avons eu beaucoup de réussite, alors que ce soir, tout était contre nous. Je suis quand même fier de mes joueurs.
Christophe, vous qui commentiez à huis clos pour nos auditeurs ce match.
Dans le huis clos du studio 41.
Ah, n'est-ce pas? Oui. Ici, où nous sommes loin de tout virus. c'était vraiment une rencontre inattendue.
Ouais, c'était vraiment un grand match.
On savait que c'était difficile. Alors là, par contre, on l'avait dit, le 1-0 au match aller.
Oui, alors Liverpool, bon d'abord ça se joue sous la pluie d'un bout à l'autre, c'est un vrai match de Coupe d'Europe à l'ancienne, et puis ça s'est vite transformé quand même en match quasiment à sens unique, hein, parce que c'est vrai que l'Atlético a attendu, et il a attendu son heure pour sortir. Bon, il s'est passé tellement de choses qu'on ne sait plus par où commencer. À 1-0, Liverpool est bien, mais pas encore à l'abri. À 2-0, on se dit que quand même, on a le sentiment, Philippe, que là, Liverpool a fait l'essentiel.
Ben, je crois qu'ils l'ont cru eux-mêmes.
Eux-mêmes, ouais.
Et parce que comment vous pouvez imaginer cette équipe de l'Atlético Madrid, elle passait pas le milieu de terrain, elle touchait pas trois ballons, il faisait pas trois passes.
Ouais, Ils sortaient pas des
16 mètres. Mais alors, contrairement à l'image, parce que moi, depuis hier, j'entends des tas de gens dire, ah oui, mais on peut jouer au football comme ça. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut jouer défensivement. Bien sûr qu'on peut jouer le contre. Bien sûr qu'on peut être habile. Bien sûr qu'on peut maîtriser la partie d'une autre manière. Mais c'est pas du tout le cas. L'Atlético n'a rien maîtrisé. Ils auraient dû prendre 3-0 facile sur 90 minutes. Et même si ça tourne mal, je pense qu'ils peuvent prendre 5 buts. Hein. Ils sont ridiculisés. C'est hallucinant ce qu'on a vécu hier soir. Et si vous dites à des gens qui ont vu les 100 premières minutes, attention, l'Atlético peut marquer, ils peuvent marquer un but. Non, mais vous rigolez, quoi. C'est totalement impossible. Ils passent pas le minute. C'est impossible. Ils étaient ridicules. Ils étaient enfoncés complètement. Ils défendaient pas bien du tout. Ils étaient à 10 derrière, mais ils étaient débordés complètement. Donc ça, c'est assez extraordinaire de voir à quel point Liverpool, finalement, a réussi son match, je pense, au-delà de ce qu'ils pouvaient penser. Parce que vraiment, ils ont débordé. Mais sans concrétiser, à l'inverse de ce qu'ils ont fait contre Barcelone l'année dernière, où chaque fois qu'ils étaient concrets, ils rentraient dans le concret, ils marquaient des buts. Mais alors... Et là, bon, mais le manque de confiance, tout ce qui a effrité un petit peu la confiance dans le dernier mois de Liverpool a pu à un moment peser, et notamment, bon, ils sont trahis par Adrian, et manque de bol, ils n'ont pas leur gardien sur ce match.
Est-ce que ça ne vous rappelait pas, j'imagine, on peut faire le parallèle avec Karius et la finale de la Ligue des Champions?
Non, ça m'a plus rappelé des Barcelone qui perdent contre Chelsea, par exemple, où Chelsea était arc-bouté derrière à 10 et envoyait les ballons dans les tribunes. Et puis à l'arrivée, ils arrivent à se qualifier en 2012 en demi-finale.
Drogba aussi.
C'est des matchs. Voilà.
Il y a eu l'Atlético
en demi-finale. Et l'Atlético au Bayern, par exemple, en demi-finale.
En 2016.
Où ils sont arc-boutés. Mais à l'époque, ils avaient plus d'arguments quand même.
Ouais.
Et quand Griezmann.
Ils avaient des vraies qualités de
Ils avaient plus de qualités. Là, honnêtement, ils n'ont rien produit. Moi, je suis sûr que Klopp va être taxé de mauvais perdant.
Il l'est déjà, je crois.
Parce que la mentalité actuelle veut qu'on puisse plus rien dire. Mais Klopp, je pense qu'il s'en fout totalement. C'est un type qui est droit dans ses bottes, il regarde le match et ce qu'il dit est totalement juste. Comment l'Atlético, avec les joueurs qu'ils ont, peuvent jouer un football aussi pauvre, j'arrive pas à comprendre. Et comment ont-ils pu gagner? Mais tu gagnes un match comme ça tous les 100 ans. Hein.
Nabil,
il faut dire les choses. Hein.
Vous aviez un œil sur ce match aussi?
J'ai un petit peu regardé. Autant Dortmund est incapable de jouer comme ça, on l'a vu hier, autant l'Atlético, c'est une culture chez eux également. Mm-hmm. Donc s'ils ont perdu des joueurs importants dans ce registre, notamment du combat, je pense à Diego Godin notamment, exactement, qui a incarné un peu l'âme de cette équipe. Alors hier, la différence, elle s'est fait aussi au niveau du gardien, parce que pour moi, il aurait dû y avoir les deux meilleurs gardiens de la planète sur le même match, Oblak d'un côté et Alisson de l'autre.
Exactement, Alisson en plus récompensé.
Si vous mettez Adrian dans le but de l'Atlético il y a 5-0.
Ça s'est joué là-dessus.
Il y a 5-0.
On a beau parler de la culture de l'Atlético, de son art, de faire le dos rond et de marquer en contre.
Voilà, mais si vous le dos rond, merci les poteaux. Hein.
Il dégageait en touche, faut dire les choses.
Oblak a été extraordinaire.
C'était extrêmement minimaliste, mais après, il faut pas oublier non plus que ils arrivent en ayant, eux, déjà 1-0 pour eux, c'est comme si tu gagnes 3-0. Non, mais c'est-à-dire que ils ont l'avantage, ils sont en bon attache favorable.
Tenez le ballon, c'est ce qu'on imaginait.
Débrouillez-vous, c'est pas notre problème, nous ça nous intéresse pas.
Non, mais au match aller, ils avaient fait leur 1-0 minimaliste, mais assez maîtrisé dans leur style. Dans leur style. Bon, ils avaient cassé un peu les pattes, mais ils avaient bien maîtrisé, ils avaient fait un vrai match à l'Atlético. Alors qu'hier, tous les gens qui viennent me raconter, ah non, mais Simeone, il joue toujours comme ça. Non, il joue pas toujours comme ça, parce que si tu joues comme ça, tu prends 3-0 tous les week-ends contre tout le monde.
Mais il va pas croiser à chaque fois une équipe comme celle de Liverpool.
Tu joues 10 fois ce match comme hier soir, tu prends 9 fois 3-0.
Après,
donc évidemment que l'Atlético n'a pas réussi son match. Mais par contre, ils ont eu une réaction derrière incroyable, une réussite folle pour marquer le premier but.
Enfin, les gardiens, ils les ont tués.
Ah bah oui, excusez-moi, mais le but effectivement de Llorente, c'est terrible. Oui, moi c'est ça. Ouais, ouais. Après, on voit une équipe qui s'effrite sur le terrain et moralement.
Il y a des histoires.
Quelle est la dernière équipe de qui a gagné une Ligue des Champions sans gardien? Il n'y en a aucune.
Oui, bien sûr.
Mais d'ailleurs, Liverpool
avait très bien compris en payant extrêmement cher Alisson Becker.
Juste un petit mot. Il n'y a que des équipes qui ont des bons gardiens qui peuvent gagner cette compétition.
Juste un petit mot quand même aussi sur la perf de Llorente qui n'avait jamais marqué un but en Ligue des Champions et qui en a marqué deux hier. Il y a des histoires individuelles parfois qui sont diluées dans l'histoire collective et le héros hier, c'est aussi lui, Marcos Llorente.
C'est un attaquant qui est en fin de carrière, un attaquant expérimenté, plutôt une doublure, qui a voyagé de banc en banc ces dernières années. Il a fait Tottenham, je crois qu'il devait aller à Naples, ça s'est pas fait. Finalement, il s'est retrouvé du côté de l'Atlético, c'est un international espagnol.
C'est un peu le cas de Morata aussi.
Voilà, c'est un joueur d'expérience. Et c'était son soir.
On y reviendra de toute façon sur Liverpool et maintenant, le jour d'après ou le match d'après, on va dire. Et puis on reviendra aussi sur ces colchoneros dont Mundo Deportivo en Espagne titrait « Quelle folie, locura !» On y reviendra donc et on va parler maintenant, malheureusement, de toutes ces annulations et de ce vilain corona. Effectivement, avec ce qui se passe, on va dire, autour de ce virus qui se répand sur la planète, le PSG, on le disait, a vaincu la malédiction sur le terrain, mais qualifié en quart de finale, y aura-t-il des quarts de finale de la Ligue des Champions? Alors, il y a beaucoup de rumeurs, des rumeurs qui enflent. L'UEFA n'a encore rien décidé, Christophe Jousset, mais on commence, il se donne du temps pour...
Rendez-vous mardi prochain.
Voilà. Mais il se donne du temps pour... peut-être des échéances qui paraissent compromises maintenant.
C'est-à-dire que tout le monde anticipe une suspension de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, voire un report de l'Euro 2020, un report sine die. On n'a pas vraiment, pour le moment, d'idée sur ce à quoi pourrait ressembler l'année qui vient en matière de football européen. Pourquoi pas décaler l'Euro à l'année prochaine, ce qui pourrait faire une victime collatérale, la Coupe du Monde des clubs, sauf que c'est la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et que il va évidemment y avoir
conflit d'intérêts.
Ouais, bon, enfin, là, il y a un caractère exceptionnel. J'espère que le bon sens va quand même prévaloir parce que dans la balance, il y a quand même des choses plus importantes que des problèmes de football.
Mais l'urgence, évidemment, c'est la Ligue des Champions parce que il reste encore la moitié des huitièmes de finale retour à jouer la semaine prochaine et que là, on est devant des situations où les
empêchés.
Où il y a des clubs en quarantaine.
Mmh. On ne voit pas comment ça peut continuer pour dire clairement des choses.
Au Real de Madrid, Nabil, un détail, une précision plutôt, c'est que les joueurs sont en quarantaine parce qu'un parmi eux est porteur du virus. La Juventus,
un joueur
c'est
de
pareil.
Basket pour du Real. Oui. Et donc, comme les joueurs de football sont dans la même zone, tout le monde est concerné.
Voilà, tout le monde est concerné. La Juventus, c'est l'histoire de...
Daniele Rugani.
Alors, Daniele Rugani...
Qui a tweeté en disant « je vais bien, mais bon, je suis désolé
». Ça a été le premier des deux joueurs de Serie A qui a été diagnostiqué au coronavirus aujourd'hui. Le club est enfin en train de chercher la liste de toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact. Alors dimanche dernier, la Juve a joué contre l'Inter, vous savez, contre l'Inter de Milan, en match en retard de Serie A, et Rugani était remplaçant, il est resté sur le banc, mais bon, il a forcément croisé des joueurs. Idem d'ailleurs fin février pour le match aller de Ligue des Champions contre Lyon, il était remplaçant, Rugani il n'est pas entré en jeu, mais bon,
il était présent. Et d'ailleurs, on peut tellement tout imaginer que Cristiano Ronaldo, qui est allé rendre visite à sa mère au lendemain de ce Juventus Inter est retourné à Madère où sa mère est malade, et bien du coup il est en isolement à Madère pour l'instant sans symptômes, mais il est en isolement depuis quelques jours sur son île. Il n'a pas pu revenir, mais surtout avec tout ce qui se passe et les contacts qu'il a eu lui avec le joueur remplaçant, et bien du coup on se dit ces matchs, Philippe, on peut pas dire à la Juve allez jouer, on s'en moque, et même sans Cristiano
la compétition va être arrêtée. passer, très vraisemblablement.
Les huis clos ne suffisent plus.
Non, non, on pourra pas aller au-delà. Donc, la compétition va s'arrêter. Après, je pense que l'UEFA va peut-être, enfin, elle peut prendre des décisions évidemment radicales. Elle peut aussi attendre vers le 15 avril,
gagner
un petit peu de temps, voir si
l'évolution.
Il y a une décrue du nombre de cas, etc. Il y a une évolution positive. S'il y a une évolution positive, elle peut essayer
de reprendre.
Mais je vois pas au-delà du 15 avril, c'est fini. C'est-à-dire que soit vous arrivez à reprendre tout le 15 avril, maximum, à mon avis. Hein, j'ai regardé en regardant grossièrement le calendrier. Et là, vous pouvez arriver à préserver votre euro. Mais au-delà du 15 avril, c'est mort. Vous pouvez plus faire ou la Ligue des Champions ou l'euro. Je pense que l'UEFA sera, effectivement, les rumeurs qu'on a entendues aujourd'hui, que l'euro serait reporté, me semblent plus vraisemblables.
L'an prochain.
On peut reporter un euro.
Oui.
Alors que quand on a entamé une compétition de Ligue des Champions, c'est
exactement. On peut pas reprendre, on va pas reprendre en septembre la Ligue des Champions, en quart de finale. Ça n'a pas
qu'est-ce
sens.
Qui rapporte le plus d'argent?
Ah, c'est l'euro. C'est l'euro.
L'euro par rapport à la Ligue des Champions.
Oui, bien sûr, c'est l'euro. L'euro, c'est 5 milliards d'euros.
C'est un paramètre
donc,
aussi.
C'est un paramètre très important. Ça veut dire que l'UEFA ne peut pas se permettre de mettre son euro en risque. Si elle sent vers le 15 avril, que l'euro est en risque parce qu'on sait, on sait même pas si on va pouvoir jouer en juin, juillet ou autre. Elle va assurer, elle va bétonner pour que son euro ait lieu et pour que son euro ait lieu, elle va le reporter d'une année. Donc en juin 2021, ce qui est tout à fait possible. Ça gênera quoi? Il n'y a pas de Cannes, il n'y a pas de Coupe d'Asie, il n'y a pas de Copa América, me semble-t-il.
Il y avait le Mondial des clubs.
Oui.
Qui devait commencer en juin 2021.
Comme l'UEFA n'est pas d'accord avec le Mondial des clubs, ça leur permettra de dire non.
Ça permettrait de libérer en plus là, les prochaines échéances internationales. Les prochains matchs amicaux, si on reporte, ils seront destinés aux matchs qui, eux, ont été décalés, par exemple.
Oui, mais là, on ne peut plus jouer. Là, on ne peut pas jouer. La trêve internationale, elle est fin mars, personne ne va jouer. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce que tous les championnats s'arrêtent.
Voilà.
Soyons honnêtes.
Pour l'instant, c'est les rumeurs qui circulent.
Pour l'instant, c'est du huis clos.
Je veux dire, c'est des rumeurs.
En Italie, c'est arrêté. Enfin,
après,
en Espagne, c'est arrêté.
C'est rationnel.
C'est un huis clos pour l'instant.
Après, c'est juste rationnel et logique. Je veux dire, là, vous me parlez de Rugani. Donc, la Serie A, ça va être Gabbiadini également de la Sampdoria. Donc, la Serie A, je vois pas comment elle peut continuer. La Liga, les joueurs du Real de Madrid, ne peuvent plus croiser d'autres. Donc, ça va s'arrêter. Dans les jours qui viennent,
parce qu'après, il y aurait trop de matchs en retard.
J'imagine que ça va également arriver en France, parce que je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Je veux dire, vu la transmission et la propagation, ça
finirait déjà là. Il y a un joueur de Metz qui est touché.
Oui.
Mais pour l'instant, c'est pas divulgué de manière officielle.
Non,
il y a aussi en Angleterre. L'Angleterre est pour l'instant relativement tranquille. Mais, aujourd'hui, c'est l'une des nouvelles du jour. Il y a trois joueurs de Leicester. Le club a communiqué, qui présentent les symptômes du coronavirus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été diagnostiqués, mais pour l'instant, ils sont à l'isolement.
Mais le plus vite. Je suis désolé, enfin plus vite on prendra la décision qui peut paraître drastique et radicale, plus on va gagner du temps
pour un football quand même.
Plus on va gagner du temps pour un retour à la normale. Un retour à la normale.
Force majeure.
Et pour votre émission.
Je crois pour toutes les émissions de sport et de football, n'est-ce pas Philippe?
Aussi, il faut inviter des médecins. Il faut continuer.
Docteur Nabil va faire le tour des plateaux.
Des médecins tous les jours 16h10
sur RFI,
le point médical.
Sur RFI, ça s'appelle priorité santé et notre camarade
Radio Foot Infirmerie, ça marche.
Caroline paraît peut s'emparer
Radio Santé Internationale.
Moi c'est priorité, je me barre mais je sais pas où.
Oui, parce que en plus on nous veut plus nulle part nous les Européens, c'est ça le problème. Bon, les nouvelles ne sont pas très bonnes du front, mais on tient le cap pour l'instant et on se retrouvera demain dans Radio Foot International pour notre café et des sports. Filmez, n'oubliez pas, et vous êtes de plus en plus nombreux à y assister chaque semaine. Merci beaucoup, bonne santé
merci à
vous tous. Merci Laurent Salerno, merci aussi à David Finzel et donc on vous donne rendez-vous demain.